Interview.
1. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes positives de RDIWA. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Colline et du duo Taïga. Taïga qui est originaire de Mongolie intérieure et de la région Altaï.
Oui, du Xinjiang. L'Altaï, ouais.
Du Xinjiang.
Voilà.
Hello everyone, we are Taïga. My name is Husi. Yeah.
Hello, my name is Lele. I'm from Xinjiang.
Donc, ce duo est arrivé en France au mois de juin dernier, avec quelques concerts de prévus à travers la France. Ils nous font le plaisir de passer par les studios de RDIWA pour une petite interview un peu impromptue, on va dire, qui n'était pas du tout prévue, mais on s'en réjouit. Et on salue aussi Zhangqin qui les accompagne. Salut Zhangqin. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez fait quelques concerts un peu partout dans cette formule, ce duo Taïga. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore ce groupe ?
Non, vous présentez-moi. Du coup, il explique que du coup, ils font la musique, c'est une sorte de musique électronique un peu psychédélique et à laquelle est associé donc des instruments traditionnels. Là, on vient d'entendre la vielle ou le violoncelle à tête de cheval, on l'appelle comme on veut, qui a deux cordes en crin de cheval et une tête de cheval en haut. Et une flûte qui est un peu... qui s'appelle la flûte sourde, qui est un peu particulière, qui a pas d'embouchure en fait. C'est vraiment un tube avec deux trous, trois trous. Et voilà, ça c'est des instruments dont ils jouent aussi dans leur musique. Et après, donc, il a expliqué que il s'appelait Taïga, et Taïga, ça veut dire, pour le dire un peu simplement, ça veut dire la forêt un peu, mais c'est vraiment un espace qui est constitué de forêt, de comment on appelle ça, les grandes plaines comme il y a en Mongolie, les steppes. Voilà, les montagnes enneigées, enfin voilà, c'est un ensemble de paysages mais qui est très typique du nord de la Chine, de la Mongolie. Voilà.
Et c'est associé à de la musique électronique.
Et c'est associé à beaucoup de musique électronique en fait. Ils ont quand même vraiment pas mal de matériel. Y a des morceaux où il y a leurs instruments, puis il y a des morceaux où il n'y en a pas vraiment. Peut-être qu'on peut leur demander directement. Et, ils ont enregistré deux albums. Il y a un album où, qu'ils ont enregistré dans un temple bouddhiste. Et finalement, ils ont enregistré beaucoup de sons, des prières. C'est les prières bouddhistes, quoi. Et en fait, c'est une langue qui, a priori, vient d'Inde. Je ne saurais pas en dire plus, là, pour le coup, ce que c'est exactement cette langue. Mais c'est
des mantras.
Ouais, des mantras.
D'accord.
Et voilà, du coup, ils en ont enregistré pas mal. Ça aussi, ils l'ont mélangé à de la musique électronique. Donc là, en ce moment, les concerts qu'ils font, c'est un peu un mélange des deux.
D'accord.
Il y a des moments où il y a des voix, mais c'est pas les leurs. Puis il y a des moments où c'est eux avec soit de la voix, soit de la diphonie, les instruments. Puis il y a des morceaux où c'est presque entièrement électronique aussi. C'est un truc dans lequel ils baignent, ils se...
C'est leurs influences, en
ils
fait,
la musique. Ils mettent des nappes, des choses comme ça. Oui. Bah, c'est de la musique très chill, quand même, malgré tout.
Oui.
Avec beaucoup de basses, mais qui sont, enfin, c'est vraiment très chiadé au niveau musical. Et du coup, ils ont ce truc de bourdon un peu, ou de, en tout cas de basse, quoi. Et puis, enfin, c'est du psy-chill un peu, quoi. Il y a un truc quand même très tranquille et qui du coup donne cette ambiance-là dont tu parles. Après, ce que je me demande, moi, c'est pourquoi ils ont enregistré dans un
temple.
Quelle idée d'aller. Ni même où est-ce que tu es, Samia? Donc c'était un temple dans le Qinghai. Qinghai, c'est une grande région qui est dans le ouest de la Chine, qui est un peu au nord du Tibet, entre le Tibet et le Xinjiang, donc nord-ouest, ouais. Qui est encore un endroit où il y a les grandes prairies et des montagnes. Enfin, c'est vrai, c'est encore les mêmes ambiances.
Les steppes.
Voilà.
Oui.
Et en fait, c'était un projet de. C'était un ami à eux qui a proposé à plusieurs artistes, pas que eux, en fait, de venir dans ce temple et d'y faire des choses. Puis du coup, eux, ils ont enregistré un album.
Ok.
Voilà. Enfin, ils ont enregistré beaucoup de sons. Ils ont dû les retravailler encore après, mais ils ont fait un album où ils ont pris du son là-bas et composé là-bas.
Ça fait combien de temps qu'ils ont commencé ce projet-là?
Donc il y a en fait Rousselot qui est là, il était dans un groupe au départ. Ils se sont retrouvés à Chengdu. Rousselot est déménagé à Chengdu. Il vient de Mongolie intérieure, mais donc il habite dans le Sichuan à Chengdu. Et là, ils avaient un groupe de cinq personnes qui faisaient de la musique complètement trad. Pour élargir un peu, ils parlaient de musique Tuwa. C'est encore une ethnie qui est là-haut, mais qui est un peu en Mongolie, un peu en Russie aussi. Enfin voilà, dans plusieurs pays. Enfin, c'est une influence. Voilà, c'est une culture, quoi. Et puis une musique. Enfin bon. Mais du coup, ils faisaient de la musique avec des instruments traditionnels. Et puis en 2017, le groupe s'est séparé et Rousseau a commencé à s'intéresser à la musique électronique. Et puis il a eu envie de refaire la musique avec des gens. Ben là, Lélie, ni ben là, mais on a dit que demain.
Ça,
ok.
2014年认识，然后就一块。你先说，我。
Oui, ben avec. Alors, du coup, Lélie était aussi dans le groupe de base. Où ils étaient 4, pas 5. Et eux, ils se sont rencontrés au Xinjiang, parce que Rousseau, il a aussi habité au Xinjiang. Du coup, ils s'étaient rencontrés là-bas, puis après, ils sont venus à Chengdu. Et donc, ils ont composé ce groupe de 4, là. Puis, entre-temps, Lele est parti avec 3 autres. Ils ont tout rechangé. Enfin, c'était le seul élément restant, c'était Rousseau.
Okay.
Et puis, voilà, après, ils se sont retrouvés avec Lele pour faire de la musique ensemble.
Mais ils se connaissaient déjà depuis un petit moment.
Mais c'est, du coup, ils se connaissent depuis 2014, ouais. Voilà, ça fait 10 ans, quoi. Génial, hein.
Ok, et aujourd'hui, ils se retrouvent en France. C'est quand même complètement fou, quoi.
Ben, oui. Ben, après, ils ont... Ben, Jansin qui est là, qui a déjà... on travaille ensemble de temps en temps. On a pu emmener, du coup, Total Chicken en Chine. Il avait amené un autre duo de musique un peu traditionnelle aussi, il y a quelques années.
Okay.
Il aime bien le Diwa, donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu là. Et là, il s'occupe de ce groupe-là, et qui, avant de venir, elle est tournée au Japon aussi.
Ah oui, ok.
Ça commence, c'est un groupe qui commence à être connu en Chine, qui tourne pas mal en Chine, mais qui tourne aussi à l'étranger. Ils sont allés jouer une fois, un concert.
Okay.
En Russie, deux. Ok, deux concerts en Russie. Mais oui, sinon au Japon, enfin voilà. Mais là, là oui, du coup, une petite diversité de dates en France. Moi, je suis contente parce qu'ils viennent deux mois et demi et que ça reste un long voyage, donc c'est chouette de ne pas faire un truc trop bref. Et puis
est-ce que ça donne l'occasion de rencontrer des musiciens d'ici et de faire des rencontres musicales?
En fait, quand ils sont venus, moi je les ai accueillis à la navette, notre salle de résidence dans le Royan. Donc ils sont venus une semaine à la navette et en fait j'avais convié Stéphane, qui est un des éléments du groupe Cosmit, qui fait aussi de la musique tout seul. Mais Cosmit est peut-être un petit peu plus connu par certains, c'est un truc qui est signé chez Adra.
Ok.
Et donc Stéphane avait déjà, en fait Cosmit a déjà tourné en Chine, donc il y avait un peu des liens qui s'étaient faits. Et là Stéphane est venu pendant une semaine bosser avec eux. Ils sont installés à la navette pendant une semaine pour jouer ensemble. Et à l'issue de ça, ils ont joué dans une petite brasserie qui vient de s'ouvrir à Saint-Aignan-en-Vercors, la brasserie La Tangente, qui était en bas dans le Royan auparavant, puis qui est montée là-haut. Et ils ont joué. Ils avaient préparé et des morceaux de Stéphane un peu retravaillés avec eux deux et l'inverse. Donc ils ont fait un set un peu ensemble, puis après ça a poursuivi dans le concert de Taiga. Ça c'était une vraiment chouette rencontre, ça a été hyper fluide,
super,
facile,
super.
Très chouette, éphémère, voilà, fallait venir au concert, il n'y a pas d'enregistrement.
C'est magique les rencontres comme ça.
Ouais, c'était vraiment chouette. Et puis à cette occasion-là, il y a aussi un groupe de Grenoble qui s'appelle Choubiao, qui est passé, qui fait de la musique mongole. Il y a un musicien mongol dans le groupe, sinon c'est des Français, dont un Français qui fait aussi des chants diphoniques.
D'accord.
Donc ils ont eu l'occasion de jouer ensemble. Alors là, ils étaient hyper nombreux dans la salle à jouer ensemble, puis c'était pas si simple parce qu'il y avait batterie et musique électronique, ça c'était complexe. Mais bon, ça a été une rencontre un peu sympa. Et il disait Pila. Pila, c'est
Kali
Live Dub. Du coup, qui les a accueillis pendant deux semaines chez lui, dans un endroit dans la Loire où il a fabriqué. Enfin, il a à la fois un studio et puis un espace assez fou qui est une grange où il y a une rampe pour faire du skate à l'intérieur de la grange. Et en même temps, ils ont enregistré les instruments à cet endroit-là, là, au centre de cette grange. Puis après, voilà, ils ont bossé pendant deux semaines, ils ont enregistré huit morceaux là-bas.
Ah, génial.
Et c'était chouette, c'était un beau moment. Moi, j'étais pas trop là, ils se sont baragouinés de l'anglais comme ils ont pu, mais...
Taiga vient nous présenter un petit peu les caractéristiques de la musique un peu mongole, adaptée sur des thématiques modernes avec la musique électronique. Et j'ai remarqué que ça fait donc à deux reprises que tu parles de chant diphonique, qui est une caractéristique de la musique mongole, le chant diphonique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en deux mots à quoi ça correspond, ce chant diphonique ?
Le chant diphonique, c'est son guttural. À vrai dire, Rousseleu, avant, il faisait du chant métal aussi.
Ok.
Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme pour ça, j'ai oublié. Et du coup, voilà, la diphonie, c'est ça, c'est vraiment ce travail où t'as à la fois un espèce de bourdon rauque, là, de la gorge, et sur lequel tu... Enfin, en fait, toute la musique mongole est basée là-dessus, sur ces diphonies, là, sur ce... Même le violoncelle à tête de cheval, là, ce truc-là de... d'harmonie, de... Enfin,
alors, c'est un... Moi, ce que j'ai cru comprendre, que le chant diphonique, c'est parce qu'il y a deux sons, je crois. Il y a le son de la gorge, et puis il y a une espèce d'harmonique au-dessus, en fait, qui s'en extirpe et qui demande une certaine technique avant d'arriver à ressortir ce son.
Il dit qu'il y en a aussi, oui, il y en a trois.
Wow.
Mais bon, là, tous les styles de Rumei, là, de diphonie sont basés sur c'est ça, ce son grave et la mélodie,
une harmonie qui est vue, en fait,
voilà, c'est ça.
Et tu penses qu'il serait ok de nous faire une démonstration?
Ben oui.
어제 from number one, number two.
Okay.
Yeah. Yeah. 그마 have five big style. Yeah. Number one, 그마. Name 그마.
그마.
Yeah.
세 nom. Okay.
Yeah.
두 premier type de chant.
Number two, 세겟. Yeah. 세겟.
Name.
Name 세겟. Number three, 보르방 나들. Yeah. Number four. 이즈응겔 이즈응겔 예
어디 봤어 가르그라
네 number five 가르그라 예
okay
it's five big styles
okay
yeah
c'est les cinq types de chants diphoniques différents qu'il y a dans la musique traditionnelle mongole
ouais
c'est bien ça, ça hein.
c'est ça
然后在这个五个大的风格里面有很多小的分支
oui et non en fait c'est les grands c'est les cinq grands styles
Oui.
Et après, à l'intérieur, entre guillemets, enfin, il y a plein de sous-styles encore.
Ah, ouais.
Dont ce qu'il m'expliquait la dernière fois, c'est qu'il y a aussi des styles qui sont dont le nom est le nom d'un chanteur ou comment un musicien
qui a développé un style particulier.
Voilà. Et au final, ils ont gardé le nom de l'artiste. Ça, c'est du coup le style Kamei, avec un accent fort sur les médiums, en fait.
Ok, voilà. D'accord.
Alors, j'ai oublié le nom, là. Mais en tout cas, ça vient... ça vient représenter le son du cheval qui galope. Du coup, là, pour le coup, il y a un rythme, surtout.
Ok, des percussions
Ben non, dans la... Tu vas comprendre. Okay. Écoute, tu vas comprendre. Tu l'as entendu, les chevaux qui galopent?
Ouais, j'ai entendu, voilà. Ouais. Ah, super. Wow.
Hao. Tiens, Lele, le
style qu'il présente, là, c'est potentiellement un style où il pourrait y avoir trois sons distincts, ce qui est difficile à obtenir, en vérité.
Oui, j'imagine.
Puis il redisait bien que, voilà, t'as le son guttural qui envoie l'air et puis qui fait quand même ce son bourdon. Et que par-dessus, quand ça traverse la bouche, là, ça vient rajouter la mélodie. Et si je ne m'abuse, là, on est aussi sur de la... Il y a un style où ça vient... on peut dire babiller, je ne sais pas comment dire. Il y a aussi les lèvres qui viennent...
Il y a une vibration qui se fait.
Il y a une vibration à travers les lèvres. Mais on va vérifier si c'est bien ça. Ça va s'entendre. Lélei.
Ok.
Whoa.
c'est bien ça. Donc, vous avez certainement entendu les lèvres qui viennent.
Tout à fait, ouais, qui viennent toucher, vibrer, absolument.
Ok. L'eau de source, ça représente l'eau de source.
Ah, c'est beau.
La source, enfin, ouais. Voilà.
Et est-ce que là, c'est des sons.
Ouais.
Est-ce que ça peut arriver de faire ce genre de chant avec des mots?
Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça. Rien que par le son, déjà, qui est produit par les diphonies, comme on vient d'entendre, là, c'est. il l'a dit simplement, il a dit que ça peut représenter une carte. C'est-à-dire que, en fait, finalement, dans l'ambiance que tu. Enfin, dans le son que tu vas créer, ça va représenter des images et donc un contexte, un espèce de contexte environnemental, quoi. Donc, ça c'est un peu ce truc de te positionner géographiquement.
C'est comme des cartes postales, peut-être.
Un peu.
Il dit
que c'est sorti, c'est peut-être sorti avant. Enfin, ça existait avant, peut-être, la langue.
Ah ouais.
Avant les langues, quoi.
Et donc, ce champ diphonique est influencé par les éléments naturels, j'ai l'impression. Tu parles d'environnement.
Oui, là on a parlé de.
Des steppes.
Il y a des styles qu'on n'a pas abordés. On a ni soit si on disons mon fond ni à de ce night.
C'est vite.
C'est
vite, mais non.
Ah ouais. Parce que alors du coup ça il y en a deux qu'on n'a pas encore fait. Il y en a un qui ressemble à. Ok. Ouais, voilà, ça il y en a deux. Il y en a un qui ressemble au, qui vient représenter l'oiseau, et un autre qui vient représenter la pierre.
Waouh.
Mais du coup, on les a pas fait encore.
Ouais. Ok.
On peut les faire.
Ouais.
Là, il va.
S'il en vit, hein, bien sûr.
Chez moi. Sérut.
Ah.
Ah. Après, sérut, gargara.
Ah.
Sérut, oui, tiens.
Gargara, c'est nul.
Gargara, mais yo.
Ah non, l'oiseau, il l'a déjà fait, pardon.
Et
du coup, la pierre, c'est plutôt un son grave.
Bravo, musique un peu de trance, un peu, j'ai l'impression.
Mais oui, en fait, ça, c'est assez drôle parce que en réécoutant, là, enfin, du coup, je les ai accompagnés sur pas mal de concerts. Dans leur musique, ils ont tendance à mettre que ce soit la voix ou l'instrument, enfin, ou les instruments, à peu près au même niveau que la musique électronique qu'ils produisent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Quand t'écoutes, ils vont pas mettre spécialement en évidence le chant diphonique. Ils viennent le moduler aussi, des fois. Enfin, ça vient faire partie. C'est un élément parmi tant d'autres. C'est pas forcément mis en avant si fortement, quoi. Tu vois, c'est pas. Je sais pas comment dire.
Mais peut-être que c'est le moment d'écouter un morceau de Taïga, alors. Peut-être.
Ben oui.
travers ce projet Taïga, donc il nous présente un petit peu les, voilà, la musique mongole et la musique de Xinjiang.
Le Xinjiang est composé de plein de, d'ethnies différentes. Et l'Altaï, c'est vraiment la pointe haute du Xinjiang, et en fait c'est à la frontière avec la Mongolie. Okay. Là où Rousseleu, il vient de la Mongolie intérieure, qui est donc plus à l'est. Mais sauf que, en fait, les deux régions, le Xinjiang et la Mongolie, constituent le nord de la Chine, on va dire. Ça se rejoint à un endroit même.
D'accord, oui.
Et donc voilà, c'est éloigné, mais en même temps pas si éloigné, parce qu'il y a quand même une frontière commune.
虽然说民族好多民族是不一样的嘛，这两个地方，但是大家都是
dans les points communs entre la Mongolie intérieure et le Xinjiang, par exemple, c'est quand même vraiment des régions où il y a beaucoup de minorités ethniques. Pour ce qui est les deux régions sont aussi des régions d'élevage, beaucoup. Là, ce que me racontait notamment Rousseleu hier, c'est que la Mongolie intérieure, c'est des endroits, ça reste les Mongols notamment restent des peuples nomades, évidemment, nomades notamment parce qu'ils promènent leurs bêtes et que leurs bêtes ont besoin d'aller dans différents endroits
pour de la nourriture, router,
voilà, et que a priori c'est un peu le bazar en ce moment parce que ils ont changé le système, ils veulent donner des espaces aux éleveurs, et du coup c'est le bazar parce que ça marche pas, en fait on peut pas rester à un seul endroit pour nourrir ses bêtes.
Oui. Et puis j'imagine que ça fait des siècles et des siècles qu'ils sont habitués à ce mode de vie.
Et puis que voilà, et puis que c'est un système qui fonctionne, en fait, c'est que transformer ça c'est après voilà, c'est des directives de l'État.
还有一些回族不说了吗？回族吗？
Il y a deux ethnies en Chine qui sont musulmanes. Une qui s'appelle les Hui et l'autre qui s'appelle les Ouïghours, dont on a pas mal entendu parler.
Oui.
Et donc là, il dit qu'en Mongolie intérieure, il y a aussi des Hui. Après, c'est beaucoup des gens d'ethnie mongole. Au Xinjiang, il y a combien de différentes
ethnies ?
13. Il y en a 13 différentes dans le Xinjiang. Alors c'est assez rigolo parce que Rousseau, il vient de Mongolie intérieure. Là, les deux, ils peuvent parler mongol entre eux.
Okay.
Ils ont déjà deux langues de base. Là, on est en train de parler mandarin, mais ils parlent mongol. Ils sont tous les deux d'ethnie mongole, donc ils parlent mongol. Et Leilei, qui vient du Xinjiang, il parle aussi assez très, très facilement le kazakh. Au Xinjiang, il y a aussi beaucoup de... Enfin, voilà, c'est frontalier avec le Kazakhstan. Donc, il y en a beaucoup au Xinjiang qui ont grand... Enfin, voilà, il y a beaucoup de kazakhs aussi. Donc, ils baignent dans plein de langues et dans plein de cultures différentes. Et lui, du coup, il maîtrise déjà trois langues, en rajoutant l'anglais. Et puis,
Parce que j'imagine que d'une ethnie à l'autre, ils ne se comprennent pas forcément.
Dans les langues ?
Ouais.
Ah ben... leur langue commune, c'est le mandarin qui a été adopté par tous, quoi. De toute façon, même les langages, tu vois, c'est au-delà des minorités, il y a aussi plein de dialectes dans toutes les régions en Chine, et du coup, le mandarin en chinois, ça se dit putonghua, ça veut dire c'est la langue commune, en fait.
Oui,
c'est la langue. Et du coup, voilà, c'est ce qui leur permet de communiquer, mais ce que me disait Rousseleu, c'est que là, dans les régions d'où ils viennent, dès que tu t'éloignes vraiment des villes et tout ça, les gens ne savent pas encore parler le mandarin. Bon, ça bouge beaucoup et tout ça, mais bon, comme dans plein d'endroits en Chine, dès que tu vas dans des endroits reculés, ils parlent que leur dialecte. Donc, ouais.
Et donc, depuis que vous êtes arrivé, vous avez fait combien de concerts ?
Ils sont allés au Isis Garden. Leur première date, c'était Isis Garden, qui est un festival dans les Cévennes. Ah oui, ensuite ils ont joué au Senoy Gathering à la chapelle.
Dans le Vercors, ouais.
Ils ont fait l'ouverture du festival. Ensuite ils ont enchaîné donc avec leur temps de résidence à la Navette, donc ils ont fini par faire le concert à la brasserie avec Stéphane.
Et là ils sortent du studio.
Après ils ont fait le studio, il y a eu un concert, on a fait une autre brasserie qui est la brasserie La Grivoise à Saint-Agrève. Puis un petit festival dans le Sud Rhône qui s'appelle le Kizouk Festival.
Ah oui.
Puis nous voilà là.
Waouh, super. Et là,
ils ont fait un concert à Toulouse aussi.
Toulouse.
Dans les siestes festivals, le off du CD Siestes Festival à Toulouse. En fait, c'est une tournée qui a été pour laquelle on a trouvé, on était plusieurs à chercher des dates à droite à gauche.
Oui.
Il y a eu déjà une première base qui était le Isis Festival, le Isis Garden Festival, le Sénoy et le Hadra.
Ok.
Le Hadra Festival à oui. la fin de où ils vont jouer avec Choubiard, là, le groupe de Grenoble aussi. Enfin, en fait, ils font la même scène. Il va y avoir un enchaînement de musique mongole, un groupe de France, un groupe de Chine.
Ah, génial.
Voilà. Il y a aussi une autre fille de Chengdu qui vient jouer au Hadra. Enfin bref, il y a un plateau qui est assez rigolo. Avec Kathleen de Luc Andivois aussi.
Ah, génial. Enfin,
il y a okay. plein de liens qui vont se faire. Et voilà, on a été plusieurs à chercher des petites dates à droite à gauche. J'ai fait partie des gens qui ont cherché. Jansine a des liens depuis longtemps aussi avec le groupe iTone, qui avait quand même enregistré un album avec un artiste en Chine. Du coup, iTone continue, enfin en tout cas les musiciens d'iTone continuent de faire des trucs, notamment avec Chengdu. Et là, on a Fab qui nous a aidé aussi à trouver des plans. Ben, Pila, c'était...
Fab Aston.
Voilà.
Ouais.
Du coup, voilà. C'est une petite effervescence comme ça de gens qui se disent « Ah, on est déjà allé en Chine, ah oui, on a eu un bon accueil, on va nous-mêmes essayer d'accueillir. » Enfin, voilà, c'est très humain, tout ça, quoi.
Donc là, il reste quoi, un ou deux concerts, en fait, c'est ça ?
Donc, ils ont un concert à Hadra, et après, ils ont un autre concert en Mayenne, au VNB Fest.
Wow.
Et ils vont faire une dernière date à Paris. Mais du coup, ouais, encore quelques dates, là, c'est un peu... Ah non, la marbrerie, pas la maroquinerie, la marbrerie.
Ok.
Voilà.
Ok, super.
Voilà.
Trop bien. Et puis après, retour dans le pays avec de projets. Quels seront les projets futurs après cette tournée en France ?
Ben là, ils ont enregistré 8 morceaux du coup chez Pilar là, et donc à leur retour, ils vont travailler encore un peu ça, puis peut-être enregistrer d'autres morceaux, je sais pas. L'idée, c'est de sortir l'album en février, donc pas tout de suite.
Okay.
Mais du coup, je pense qu'ils vont commencer à mettre en forme des choses autour de ça. Il me pousse Rayo et que Suen ma Romain pour Romain.
Et
après, il y a une tournée. Il y aura une tournée de prévue l'année prochaine à partir de février, pour la sortie d'album.
Ok, très bien.
Voilà. Et il y a des chances qu'ils reviennent en France l'été prochain. C'était un peu la petite tournée un peu découverte et se faire connaître là cette année. Puis.
Pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de les voir en concert, mais qui seraient intéressés par écouter leur musique, où est-ce qu'ils peuvent trouver leur musique ?
Alors, ils sont sur Spotify.
D'accord.
Ils sont trouvables sur Spotify. Ils ont une page Facebook qui n'est pas hyper active, mais qui existe aussi, qui s'appelle Taiga Official.
D'accord, Taiga Official.
Voilà. Il y a des clips aussi il y a des choses sur YouTube.
Ah, si on tape Taiga sur YouTube, on peut trouver.
Alors, Taiga, c'est un peu embêtant, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un terme qui vient qualifier un biotope, du coup, c'est un nom très générique. Il y a aussi pas mal d'artistes qui, dans le monde, sont appelés Taiga. C'est pour ça que Taiga Official, déjà sur Facebook, c'est pas mal. Sur Spotify, je crois que ça se retrouve assez facilement. Ils sont sur Instagram aussi, je crois.
在蒙古音乐中呢，就是我们这些所有的乐器，就是这几个，就包括胡满，这些东西都叫做超尔。
Tour. Alors, il explique que, enfin, la flûte qui est là, qui est une flûte, c'est une flûte, je crois, qui est passée au patrimoine de l'UNESCO, c'est un truc qui est protégé. Bref, on l'appelle la flûte sourd. Et en fait, sourd, ça vient qualifier tout l'ensemble des instruments de musique mongols, enfin là la flûte, le violoncelle à la tête de cheval, les roumaï, la diphonie.
对，都叫超尔。然后，像
en fait la définition du mot, d'où on l'écrit T-S-U-U-R.
Sour.
Alors lui quand il le dit, dit char.
Char.
Dites bien char. Chaque nom d'instrument a ce petit mot là à la fin, qui veut dire harmonie en fait. Voilà. Enfin, ressent, c'est pas harmonie, c'est... Ouais, c'est polyphonie, plutôt.
Ah
pour
oui,
le
d'accord.
Coup. Il voulait dire ça avant de refaire un petit morceau. Ah, donc il propose de mettre tous les tsours ensemble.
Ah, ok. Réunissons les tsours.
Voilà.
Merci beaucoup.
T'as remarqué alors cette flûte improbable là où.
Ben, il change de côté quoi.
Alors là il n'en a pas une très traditionnelle, c'est un tube en PVC.
Ah oui.
Et donc il peut changer de côté, mais c'est un truc hyper particulier parce que du coup il se l'enfonce sur le côté de la bouche, il la cale sur les dents
ouais.
et il bouche, il m'avait expliqué qu'il bouchait une partie de l'embouchure avec sa lèvre. Et après, derrière, il faut arriver à faire circuler l'air d'une certaine. C'est quand même hyper complexe. Et ouais, du coup, il peut changer de sens et avoir des aigus d'un côté et des plus graves de l'autre.
Ah ouais, c'est ça.
Il est passé vachement plus aigu.
Il est passé super aigu, ouais. Oui. Merci de cette démonstration et de cette présentation de votre culture. Nous, ça nous fait du bien en France d'accueillir des gens qui nous présentent leur culture musicale, leur culture de vie. Et ça nous donne envie de voir des images, en fait. Est-ce que des fois, vous avez des projections avec avec votre musique, parce que ça donne envie de voir un peu les paysages qui vous inspirent.
Tu as souvent aussi fait sien les mêmes de l'univers ouin roi, tu vois, de l'univers de l'univers, tu vois, 就是风景啊什么的，然后他就问你们会不会有时候会图片或者什么视频啊，会用不用会不会用什么图片或者视频啊这种会不会有。
我们的那个VG里面好像有人做过那个Traffic做过这类似于这种的，但不是全部，就是一些有一些风，但是把它改了。
Après la plupart des vidéos, là ils ont fait des vidéos où c'est eux, on les filme, mais enfin, à aller voir sur YouTube, il y a quand même des super belles images qui ont été prises pour le coup dans les montagnes plutôt tibétaines, mais avec des super beaux paysages. Pas beaucoup, il y a un ami à eux là qui les a, qui a un peu fait VJ aussi sur leur.
Ça donne envie de voir ça. Hein.
Voilà. Mais ça se travaille encore. Enfin, là, Jansine est en train de réfléchir aussi à qui faire appel pour le visuel du prochain album. C'est pas encore défini. Voilà. Mais c'est vrai que dans la musique qui crée nous met très vite des images.
Oui.
Et c'est vraiment quelque chose de. D'assez planant, trans, enfin, qui emporte là, et c'est vrai que ça vient. On a très vite des images de choses. Puis ces rythmes qui font galoper, enfin, voilà. Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, tu vois, ça vient représenter un paysage, enfin, ça, il y a vraiment ce truc-là qui est fait pour créer des images, et c'est très animiste, en fait, comme
Ah oui, la nature, les animaux, voilà. Bien sûr, c'est la source d'inspiration première, j'ai l'impression. Mm. Merci Colin.
Avec plaisir.
Merci Zhangqin pour tout ça aussi.
Qui est discrètement dans
Thank
un coin.
Thank you very much for everything. And good luck for the next shows.
Mm-hmm. Merci.
Merci.
Bonne soirée. So, xie xie.
Oh, xie xie. Taiga officiel. Xie xie.
Merci.
And the Rasa, 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 the Rasa